Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation Gagner en Bourse Simplement. Nous sommes dans le module intitulé La méthode pour gagner simplement. Et après avoir vu les trois éléments essentiels à considérer avant d'acheter une action, nous allons maintenant voir les derniers éléments qui sont à vérifier. Pour ça, on va distinguer d'abord les éléments à bannir absolument des autres éléments, de ceux qui sont à plutôt éviter de préférence, tout ça pour pouvoir augmenter vos chances de réussite et aussi diminuer vos risques. Avec ce cours, donc, on va commencer par les éléments à bannir absolument. Alors, avec les éléments à bannir absolument, si un seul des points qu'on va voir par la suite dans cette vidéo, si un seul des points est présent sur le titre que vous considérez à l'achat, alors vous devez passer votre chemin et vous devez oublier le titre en question. De toute façon, ne vous inquiétez pas, l'action reviendra peut-être un jour sur le screener par la suite et les conditions pourront avoir changé à ce moment-là. Mais en tout cas, pour le moment, avec les conditions actuelles, si un des éléments qu'on va voir actuellement est présent, vous devrez alors tourner le dos à cette action et penser à autre chose. Ces éléments à bannir sont généralement difficilement quantifiables, voire impossibles à quantifier de manière précise. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que ces éléments à bannir ne sont pas modélisés au travers du screener ou au travers des indicateurs techniques qu'on a vus jusqu'à présent. Le premier élément à bannir qu'on va voir, par contre, lui fait exception à cette règle, puisque cet indicateur est modélisable, mais il est suffisamment rare pour qu'en fait ça soit pas vraiment la peine de le modéliser et d'encombrer les indicateurs ou le screener avec cette règle particulière. Le premier des éléments à éviter, c'est un scénario en fait où le breakout, donc la tempête, termine en dessous des moyennes mobiles, c'est-à-dire que le cours de clôture du chandelier au moment du breakout, ce cours de clôture est inférieur à la moyenne mobile à 50 unités de temps, donc 50 jours si vous êtes en journalier, 50 semaines si vous êtes en hebdomadaire, et le cours de clôture est aussi inférieur à la moyenne mobile à 200 unités de temps, donc 200 jours en journalier, 200 semaines en hebdomadaire. Peu importe si la moyenne mobile 50 est supérieure à la moyenne mobile 200 ou inversement. D'accord, ça a peu d'importance. Ce qui se passe, c'est que vraiment le breakout se situe en dessous de ces deux moyennes mobiles, peu importe l'ordre des deux moyennes mobiles. Un tel phénomène, en fait, est identique à celui de la tendance des marchés qu'on a vu dans ce même module avec le cours sur comment déterminer la solidité des marchés actuels. La logique reste donc la même. Le titre se trouve dans une zone rouge. Malgré le sursaut en fait récent qui est présent avec le breakout, la tendance du titre est clairement baissière. Et vous agiriez, si vous achetiez ce titre suite à ce breakout, vous agiriez avec une quasi-certitude à contre-tendance. Vous seriez peut-être face à un creux, c'est-à-dire un plus bas sur le titre. Et le retour sérieux à la hausse est peut-être en train de se dérouler sous vos yeux avec justement ce breakout. Malheureusement, c'est beaucoup trop tôt, trop dangereux de tester ce scénario avec votre propre argent et d'être sûr que vous êtes face à un creux et que vous allez avoir un retournement. Donc c'est une situation qui est beaucoup trop dangereuse. Il y a de très fortes chances pour que la baisse continue et que ce petit répit, ce petit sursaut, cette petite hausse soit extrêmement passagère malgré tous les autres signes qui sont présents et qui sont retournés par les indicateurs et le screener. Donc il va falloir que vous attendiez pour être plus sûr et pour intervenir au prochain breakout par la suite, s'il y en a un vraiment, et si il y a une véritable tendance haussière par la suite. Mais en tout cas, un tel scénario est bien trop risqué pour le moment pour prendre une position à l'achat. Ensuite, le deuxième élément à bannir, ce sont les actions ultra volatiles. Ce sont donc des actions dont les cours font sans arrêt le yo-yo. On le voit très bien avec l'image qui est représentée sur la droite avec un titre sous forme d'exemple. Ces actions extrêmement volatiles sont très faciles à reconnaître visuellement, comme vous pouvez le constater. Le calme plat ne semble pas plat du tout visuellement, et pourtant l'indicateur a quand même retourné, notamment la partie low volatility a quand même retourné vrai à ce moment-là, juste avant le breakout. Et en fait, on voit clairement à l'œil nu que le calme plat a l'air d'être totalement absent. En fait, le titre est généralement extrêmement volatile par nature et exceptionnellement, de temps en temps, il se calme un petit peu. C'est pour cette raison qu'il n'est pas exclu par le screener. Le léger calme passager le fait apparaître sur le screener. Mais il reste quand même très volatile par rapport aux autres titres qui sont généralement retournés par le screener. Donc heureusement, de tels titres passent assez rarement les tests et donc le screener en éliminera énormément de toute façon. Donc l'action est extrêmement volatile en général et à un moment donné elle a tendance à légèrement se calmer, mais comparé à tous les autres titres que vous avez l'habitude de voir, ça reste quand même ultra volatile. C'est pour cette raison que le screener en retournera quelques-uns de temps en temps. Et il faudra donc les éviter en jetant très rapidement un coup d'œil et en écartant le titre. Ensuite, troisième élément à bannir, ce sont les actions qui sont trop peu liquides. On a vu ce point justement avec l'indicateur High Volumes. Je rappelle d'ailleurs qu'un titre qui a trop peu d'échanges est gênant à l'achat, premièrement. Pour arriver à obtenir tous les titres que vous souhaitez véritablement obtenir quand vous souhaitez rentrer en position sur le titre. Mais surtout, un tel scénario, un titre qui a trop peu d'échanges, est surtout critique au moment de la revente. Si vous n'arrivez pas à sortir au moment d'une forte baisse, il y a peu de personnes qui sont intéressées à l'acheter ou à la revendre, et vous risquez de vous retrouver coincé à ne pas pouvoir sortir, c'est-à-dire à revendre vos positions, à solder vos titres, alors que les cours, par exemple, sont en train de chuter. Et dans ces cas-là, c'est la véritable catastrophe parce que vous pouvez vous retrouver à avoir des cours qui chutent, qui chutent, qui chutent, qui chutent, sans pouvoir revendre vos titres. Et c'est qu'une fois qu'ils ont considérablement chuté, que vous pouvez enfin les revendre. Et alors là, ça fait extrêmement mal. Par défaut, l'indicateur High Volumes, comme on l'a vu, est spécifié à 2000 transactions journalières minimum. Donc ça c'est valable pour l'indicateur et donc ça transparaît aussi au travers du screener. Si vous ne travaillez que en hebdomadaire, vous travaillez le week-end et que vous ne recherchez que des positions en hebdomadaire, je vous invite à changer cette valeur dans l'indicateur et de basculer les 2000 transactions à plutôt 10 000 transactions, ce qui correspond en fait aux 2000 transactions par jour multipliées par 5 jours par semaine, 5 jours de cotation, ce qui revient donc à un équivalent de 10 000 transactions par semaine. Donc ça reviendra à la même chose. Si vous débutez d'ailleurs, je vous conseille de le basculer quand même à 10 000 en journalier aussi. D'accord? Ça monte considérablement la barrière et dans ces cas-là, vous avez affaire à des titres qui sont dans l'ensemble, beaucoup plus liquide que des titres qui ont seulement 2000 transactions minimum par jour. On verra d'ailleurs dans des techniques qui sont plus avancées à l'intérieur du module 4, comment vous pourrez adapter cette valeur de 2000 ou 10 000 transactions journalières à vos conditions personnelles spécifiques en fonction de la taille de votre portefeuille et donc la taille de vos positions. Mais pour le moment, l'indicateur est ou à 2000 ou alors vous le changez à 10 000 si vous débutez réellement. Ça reste quand même assez faible. On est quand même sur des titres qui sont peu liquides, d'accord? Mais si vous débutez, vous n'avez pas besoin d'acheter une énorme quantité de titres et ça ne devrait pas constituer trop un problème dans votre situation. Voilà. Après, ça c'est vraiment le strict minimum. Dans l'ensemble, je vous recommande d'aller chercher plutôt les titres où il y a le plus de liquidités possible. En général, malheureusement, ce sont ceux qui fluctuent le moins au niveau des cours, donc les performances sont généralement moins bonnes. Ensuite, on a les actions avec des trous de cotation qu'il faut bannir. Alors, les cours de l'action affichent constamment des gaps. C'est une autre forme en fait de problème de liquidité. Vous avez les chandeliers qui sont très souvent uniquement de très petits traits horizontaux, comme vous pouvez le voir sur l'image à droite. On voit de nombreux petits tirets qui sont en fait des journées de cotation où il ne s'est rien passé, où il y a eu très très peu d'échanges. Souvent, le titre est coté d'ailleurs sur un autre marché, cet autre marché qui est beaucoup plus actif, et donc les répercussions sur le deuxième marché où le titre est coté, les répercussions se font tardivement et par secousse à cause des décalages horaires, bien évidemment. Si par exemple un titre est coté principalement sur un marché européen et qu'il est aussi coté sur les marchés américains pour faciliter l'accès aux Américains, vous vous doutez bien qu'il va y avoir 5, 6, 8, 10 heures de décalage horaire et que donc toute la séance qui s'est déroulée en Europe ne va se répercuter que 5, 6, 10 heures plus tard sur les marchés américains, avec potentiellement les mêmes conséquences. Donc si les cours ont chuté sur le marché européen, ils vont très certainement chuter aussi sur les marchés américains, et inversement. Et donc ces fluctuations se propagent plus tard, et donc sont à cheval sur des séances de bourse. D'où ces trous de cotation qui sont visibles sur le graphe qui est devant vous. Donc ces trous de cotation sont la conséquence directe de nombreux décalages entre les conditions de marché au moment de l'ouverture et au moment de la clôture précédente, de la séance précédente. Et vous risqueriez, en achetant un titre qui montre de nombreux trous de cotation, vous risqueriez de rentrer sur un gap haussier et acheter alors que c'est déjà beaucoup trop tard. Vous voyez un breakout et vous vous dites, ok, prochaine séance, j'ouvre une position à l'ouverture des marchés, et en fait vous vous retrouvez avec un énorme gap à l'ouverture le lendemain, et donc vous vous retrouvez à acheter déjà extrêmement cher. L'inverse est aussi douloureux, c'est-à-dire vous essayez de sortir, et en fait vous sortez sur un gap baissier. Donc au moment où vous passez votre ordre pour qu'il s'exécute le lendemain à l'ouverture des marchés, il y a un énorme gap baissier et vous vous retrouvez à vendre beaucoup trop bas à cause justement de ces trous de cotation. Ensuite, un autre élément à bannir absolument dans vos décisions d'achat, ce sont les actions avec un énorme gap. Alors, on vient de voir le scénario avec plein, plein, plein de petits gaps, plein de petits trous de cotation. Là, cette fois-ci, on parle de un gros, gros, gros gap qui est lui aussi très facile à observer visuellement sur un graphe. Le gros gap ou l'énorme gap peut être baissier ou haussier d'ailleurs. Ce gap peut représenter parfois plusieurs centaines ou plusieurs milliers de pourcents à la hausse ou à la baisse. Et ce gap est généralement dû à une division du nominal de l'action ou à un fractionnement des actions, ou à l'inverse, à un regroupement des actions qui sont mal répercutées dans ProRealTime. Donc il arrive parfois que les entreprises décident de faire un split, c'est-à-dire de couper, de fractionner leurs actions pour qu'elle soit moins chère et qu'elle soit plus accessible aux investisseurs. Ça, en général, un tel scénario se produit une fois que les cours ont déjà beaucoup, 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 beaucoup grimpé. Et donc, les actions deviennent plus difficilement accessibles aux investisseurs parce que une seule action même devient chère. Donc, l'entreprise décide de faire un split et de diviser par 2, par 3, par 10, par 30 l'action. Donc, il y a beaucoup plus d'actions qui sont sur le marché. Et pour que l'entreprise ait toujours la même capitalisation sur les marchés financiers, il faut donc que les cours soient divisés d'autant, donc par 2, 3, 5, 10, etc., etc. Pareil à l'inverse, le regroupement d'actions, c'est l'inverse. En général, c'est une action dont les cours ont considérablement chuté. Les cours ne valent plus rien. Ça donne une mauvaise image de marque de l'entreprise au niveau des investisseurs. Et donc, l'entreprise décide de regrouper des actions pour que, au lieu qu'elle cote à quelques centimes, eh bien, elle puisse être cotée à des tarifs plus corrects, plus raisonnables, plus alléchants pour les investisseurs. Et donc, augmenter la crédibilité de l'entreprise. Et dans ces cas-là, les actions sont regroupées, il y a donc moins d'actions disponibles sur le marché et donc les cours vont être aussi regroupés et le dernier cours de bourse va être si par exemple 4 actions sont regroupées en une seule, les cours vont être aussi multipliés par 4 sur le graphique. Donc normalement ces changements sont faits correctement pour les gros titres dans ProRealTime mais c'est pas toujours bien fait pour les petits titres. Et quand ça se produit, vous voyez un gros gap. Si c'est mal fait, vous voyez un gros gap, comme c'est le cas sur l'image sous vos yeux dans ProRealTime. Cette erreur de la part de ProRealTime, réellement, a la fâcheuse tendance à fausser tous les indicateurs et à fausser particulièrement les indicateurs sur les moyennes, qui utilisent des moyennes. Donc, dans notre cas, particulièrement sur l'indicateur low volatility et aussi un petit peu sur l'indicateur big high. Donc, ces deux indicateurs-là vont être faussés. Et comme vous pouvez le constater aussi sur la figure graphique qui est sous vos yeux, une telle erreur fausse aussi la figure graphique, puisqu'on a énormément de mal à voir ce qui s'est passé. Alors que normalement, si ProRealTime effectue bien l'opération, en général, la plateforme graphique remonte en arrière juste avant que le split soit effectué et ensuite redivise les actions à ce moment-là pour que la continuité se fasse correctement sur les titres et qu'on n'ait pas un gros trou comme c'est le cas devant vous. Voilà, donc un gros gap comme ça, si il se produit devant vous, évitez. Écarter le titre, c'est dommage puisque normalement, techniquement, il n'y a rien de mauvais avec le titre et potentiellement, il y avait potentiellement un véritable breakout avant le calme plat. Sauf que le calme plat ici va être totalement faussé au niveau des indicateurs. Ensuite, on a les actions avec des longues mèches qui sont extrêmement fréquentes, donc de très longues mèches. C'est de nouveau un problème de liquidité au final, comme deux autres qu'on vient de voir. Et le problème est aussi, cette fois-ci, très facile à observer visuellement. Vous pouvez voir une grande majorité des chandeliers qui ont de grandes mèches, ou bien en haut, ou bien en bas, du corps du chandelier. Et de nouveau, on a affaire à un fort décalage entre l'offre et la demande, pardon, ce qui génère ces très longues mèches en haut et en bas. Donc de nouveau, dès que vous jetez un coup d'œil sur un titre et que vous voyez de longues mèches comme ça sur un titre qui vous est retourné par le screener, vous pouvez passer et oublier tout de suite ce titre. Ensuite, on a les IPO récentes, donc les introductions en bourse qui ont été effectuées récemment, en gros des introductions en bourse qui ont été faites il y a moins d'un an. Pour être plus exact, en fait, il faudrait même écarter, il faut écarter les introductions en bourse ou les IPO qui ont été faites il y a moins de 200 unités de temps, donc selon que vous soyez en journalier ou en hebdomadaire. Si jamais l'introduction en bourse a été faite à moins de 200 unités de temps. Il faut oublier ce titre pour la bonne et simple raison que On a besoin de au moins 200 unités de temps qui sont nécessaires pour que l'indicateur low volatility puisse fonctionner, puisqu'il se base sur une moyenne mobile à 200 unités de temps. Le screener, de toute façon, normalement, ne sortira pas de tel titre de toute façon, mais vous pouvez quand même tomber dessus par hasard, et dans ce cas, l'indicateur sera faussé. Vous pouvez entendre des recommandations ou tomber sur des titres en cherchant des titres par marché, par tendance, etc., etc. Et vous pouvez tomber sur un titre où d'un coup vous allez vous dire, tiens, c'est bizarre, les indicateurs ont l'air bons, il n'est pas passé au vert pourtant, et visuellement on voit clairement qu'il y a eu un calme avant, il y a bien eu une tempête derrière avec une forte hausse des cours, une forte hausse des volumes, comment ça se fait que l'indicateur n'est pas passé au vert? Voilà, l'indicateur global n'est pas passé au vert parce que l'indice de low volatility n'est pas passé, l'indicateur de low volatility n'est pas passé au vert parce qu'il n'avait pas suffisamment de données, c'est-à-dire au moins 200 unités de temps pour arriver à être, pour être calculé correctement. Donc ça signifie en fait que l'historique n'est pas suffisant pour que vous vous fassiez une bonne idée du comportement du titre et pour prendre une position avec un facteur de confiance suffisamment élevé. Enfin, dernier élément à bannir absolument, c'est le fait d'acheter une action juste avant l'annonce des résultats, que ce soit les résultats trimestriels ou annuels. Alors, les montagnes russes sont quasiment garanties juste avant, pendant et juste après l'annonce de résultats d'une entreprise trimestrielle ou annuelle. Et peu importe que ces résultats, d'ailleurs, ces résultats publiés par l'entreprise soient bons ou mauvais, ça n'a pas véritablement d'importance, vous ne savez pas au final dans quel sens les cours vont partir au moment de l'annonce. Et donc, ça représente un danger bien trop important. Les breakouts qui se produisent avant les annonces sont plutôt rares. Au niveau du screener, vous aurez peu de titres qui vont vous retourner un calme avant une tempête, juste avant des annonces de résultats. Les breakouts, ces tempêtes se produisent plutôt au moment de l'annonce, justement, et c'est ce qui nous intéresse particulièrement, et c'est ce qui est souvent détecté par le screener, puisque le screener va essayer de chercher le calme, c'est-à-dire les investisseurs attendent les annonces de résultats avec impatience, et au moment où l'annonce est communiquée ou un peu avant s'il y a eu des fuites, on va avoir un fort mouvement de cours, de volume, etc. Donc souvent les breakouts se produisent au moment des annonces de résultats. Mais donc pour ne pas prendre de risques et avant que vous achetiez un titre, vérifiez à chaque fois la prochaine date d'annonce de résultats trimestriels ou annuels. Vous pouvez vérifier cette information sur les sites qu'on a vus dans le cours sur les autres outils très utiles. Et si vous décelez, si vous êtes intéressé par un breakout qui est retourné par le screener et que vous vous rendez compte que les résultats trimestriels ou annuels vont être publiés, annoncés dans les jours qui viennent, il va falloir attendre et ne pas acheter le titre. Vous pourrez donc oublier ce titre, sauf si le jour de l'annonce ou quelques jours plus tard, il y a cette fois-ci effectivement le véritable breakout qui se produit. Alors donc, pour finir, voici les actions à effectuer avec ce cours. Grâce au screener et grâce aux indicateurs techniques, vous pouvez maintenant effectuer des recherches facilement et rapidement dans ProRealTime. Donc faites des recherches, vérifiez les éléments à éviter sur les titres qui sont retournés par le screener. Si un seul des éléments qu'on vient de voir est présent, alors vous pouvez passer votre chemin car vous savez que les risques seront trop élevés pour prendre une position à l'achat. Ça ne veut pas nécessairement dire de toute façon que le titre baissera forcément juste après ce faux breakout. Ça signifie seulement que les risques sont trop importants pour prendre une position. Et dans ce cas-là, il vaut mieux que vous vous focalisiez, que vous focalisiez votre attention sur d'autres titres beaucoup plus prometteurs plutôt que sur ceux qui montrent ces risques élevés. Pour conclure, donc dans cette vidéo, on vient de voir les éléments qui sont à bannir absolument avant d'acheter une action en bourse. Si un seul de ces éléments est présent, évidemment si plusieurs sont présents, c'est encore pire, mais ne serait-ce qu'un seul de ces éléments est présent, alors vous pouvez écarter l'action et vous pouvez continuer vos recherches sur d'autres titres retournés par le screener. Dans la prochaine vidéo, on verra les éléments à éviter de préférence pour continuer à augmenter vos chances de réussite et pour diminuer vos risques au moment de vos achats. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.